direct de la santé, c'est jusqu'à midi sur Europe 1 avec vous Thomas Joubert.
Le grand direct de la santé chaque jour entre 11h et midi sur Europe 1 avec nos spécialistes à votre service pour votre santé, votre bien-être, votre forme. Avec dans la bande pour m'accompagner aujourd'hui le retour du docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste. Bonjour docteur.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Peut-on trouver le sommeil par la sophrologie ?
Eh bien dormez, je le veux. Oui bon, ok, c'est facile à dire mais quand on souffre d'insomnie c'est un petit peu difficile. Alors une solution ça peut être, pourquoi pas la sophrologie, je vous expliquerai un petit peu tout ça.
Le docteur Jean-Michel Cohen, notre médecin nutritionniste préféré, est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Michel.
Salut Thomas.
En cette période estivale, on va s'intéresser aux tapas.
Ouais, on est obligé de faire le tour de tous les aliments qu'on va consommer à cette période de l'année. Mmh. Les tapas qui rendent hystérique Isabelle Quenin.
Exactement,
mais
elle est
qui
en train de faire des sauts sur sa chaise.
Pas très difficile à préparer, vous allez voir qu'il y a des recettes diététiques à délivrer. Je vais vous les donner dans quelques instants.
Mmh. Des tapas légers en calories ce matin. Anne Cazobon, journaliste à Europe 1 pour le journal de la santé, tout à l'heure à 11h30.
Oui, bonjour à tous, on reviendra sur la mauvaise récolte des apiculteurs après une année difficile et puis sur notre intestin qui contiendrait des bactéries vieilles de 15 millions d'années.
Isabelle Quenin, spécialiste conso bien-être. Alors on va ouvrir grand les oreilles ce matin car vous allez nous expliquer comment embellir ses lobes d'oreilles.
Bonjour Thomas, bonjour Anissa. Et oui, et bonjour que Isabelle. Ceux qui veulent tricher sur leur âge se méfient de leur lobe d'oreille. Mmh. Parce que c'est un vrai révélateur de notre âge, au même titre que les mains ou le décolleté. Mais rassurez-vous, c'est un peu comme hier, je vais vous apprendre à tricher.
Très bien, on verra ça donc tout à l'heure. Si vous voulez réagir à ces sujets, posez des questions à nos spécialistes sur le sommeil par la sophrologie, sur les tapas légers en calories ou encore sur les lobes d'oreille. N'hésitez pas, 39-21, vous écoutez le Grand Direct de la Santé jusqu'à midi sur Europe 1.
Europe 1.
Le Grand Direct de la Santé.
À la une, aujourd'hui.
Et à la une, aujourd'hui, le premier cas de malformation sur un bébé suite à une infection de la mère par le virus Zika. Cette naissance a eu lieu à Barcelone hier. Le premier bébé donc européen atteint de microcéphalie liée clairement au virus Zika. Une étude parue hier estime que des dizaines de milliers de bébés pourraient naître avec ces malformations crâniennes en raison de l'épidémie actuelle du Zika qui circule en Amérique latine et aux Caraïbes. Avec nous pour en parler le professeur Bernard Hédon, gynécologue au CHU de Montpellier et président du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Bonjour, merci d'être
oui,
avec
bonjour.
Nous. Bonjour. Il faut s'inquiéter de ce premier cas, donc cette première naissance hier sur le sol européen, donc à Barcelone. Un cas, voilà. Je le rappelle, de malformation sur un bébé.
Oui, alors vous avez raison de préciser, hein, c'est la première naissance qui a lieu en Europe, en Espagne en l'occurrence, parce que sinon, malheureusement, il y a déjà de très nombreuses naissances d'enfants mal formés, microcéphales, qui sont déjà nés, donc en Amérique latine, au Brésil en particulier, et dans tous ces pays donc de l'Amérique du Sud, qui est la première zone épidémiologique du virus Zika.
Ouais, la microcéphalie, vous pouvez nous rappeler en un mot ce que c'est, la malformation ?
Ben, c'est un défaut de développement du cerveau, et donc de la boîte crânienne, qui fait que l'enfant naît avec un cerveau qui est rapetissé en volume et bien sûr, ça donne des séquelles psychomotrices très très importantes.
Quoi. Et le lien est clairement établi avec le virus Zika ?
Alors le lien a été établi, ça y est, scientifiquement c'est maintenant prouvé, là depuis 2-3 mois. Hein, il y avait un doute épidémiologique parce qu'on voyait, on a vu en Amérique latine, mais c'est aussi passé par la Polynésie française. Hein, il y a eu des observations très précises qui ont été faites en Polynésie française d'une recrudescence de la fréquence des microcéphalies et notamment avec l'apparition de cette maladie un petit peu émergente, quoi, une nouvelle maladie virale qui est le Zika. Donc un lien épidémiologique avait été fait, mais là maintenant, ça y est, c'est formellement établi avec la preuve scientifique que c'est bien lié à la maladie Zika, qu'il y a un développement de la boîte crânienne. Alors c'est pas systématique, hein, c'est pas lors de toutes les grossesses et toutes les patientes infectées. On n'en connaît pas encore, donc, disons, la prévalence, hein, de la malformation suite à la maladie, mais avec un risque qui est suffisamment établi pour qu'il y ait une inquiétude.
Avec, à la base du virus Zika, il faut rappeler à professeur Bernard Hédon, le moustique tigre.
Exactement. C'est une maladie liée à un moustique, hein, qui donc transmet le virus d'un patient à un autre, d'un patient infecté à un autre qui n'est pas encore infecté et qui de ce fait va le recevoir. Exactement le même mécanisme comme bien d'autres maladies infectieuses. Hein. Malheureusement, le moustique, c'est peut-être un animal qui est tout petit, mais c'est connu pour être l'animal le plus mortel pour l'homme. Hein, beaucoup plus dangereux que les grands fauves d'Afrique.
Et vous recommandez donc aujourd'hui, après ce premier cas de malformation en Espagne, vous recommandez aux femmes enceintes qui se rendent dans le sud de la France de prendre des mesures préventives.
Alors là, attention, hein, je croyais que vous alliez dire aux femmes qui désirerait se rendre en Amérique latine ou des Antilles françaises.
Ouais, mais on va en parler aussi. Bon, est-ce que c'est déconseillé déjà? Alors effectivement, de partir à l'étranger dans les zones infectées.
Exactement. Là, ces pays sont infectés et c'est tout à fait déconseillé. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée quand on désire une grossesse et que voilà, on va la mettre en route ou que l'on a déjà une grossesse, de se rendre dans ces pays-là et de risquer donc d'avoir une infection par le moustique tigre et donc le virus Zika.
D'accord.
Maintenant, vous m'avez interrogé aussi sur le sud de la France.
Oui, si on se rapproche de l'Espagne, par exemple. Ouais.
Il n'y a encore, heureusement, pas encore de cas avérés. On sait malheureusement que ça risque d'arriver parce qu'il y a le moustique tigre. Et notamment en été, moi j'habite Montpellier et on le sent bien, hein, il y a une recrudescence de moustiques assez importante. Mais pour l'instant, le virus n'a pas encore touché ces moustiques-là et donc il n'y a pas encore de transmission de maladie.
D'accord.
Mais ça va venir, hein, on sait que ça va venir parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui rentre d'Amérique latine et qui se fasse piquer par un moustique, et hop, ça y est, la chaîne épidémiologique redémarre.
Mais donc vous préconisez quand même à vos patientes, hein, des femmes enceintes, de se protéger au maximum des moustiques en ce moment en France.
Voilà. Alors dans le sud de la France, on peut mettre en route une grossesse, bien sûr, mais on va éviter de se faire piquer par les moustiques. Donc on va mettre des vêtements longs, on va utiliser un répulsif, on évite de dîner à la tombée de la nuit dehors, à l'heure où les moustiques se mettent à attaquer. Voilà, on évite les piqûres de moustiques. Maintenant, si on se fait piquer, c'est pas le drame absolu, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de démonstration que le virus Zika a infecté les moustiques tigres du sud de la France.
Docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste, est avec nous dans ce studio. On a raison de se méfier, hein.
Oui, il faut se méfier, effectivement. Et la première précaution, c'est ce qui a été dit, c'est pour les patientes qui voudraient se rendre dans les pays infectés par le virus, hein, donc l'Amérique latine, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Peut-être un petit message d'espoir, entre guillemets. On a l'Institut Pasteur qui a découvert en 2016, donc cette année, un anticorps, donc une possibilité de vaccin, en cherchant un vaccin contre un virus, le virus de la dengue, qui est un autre virus qui donne aussi pas mal de fièvre.
Aussi transmis par les moustiques.
Voilà, exactement. Et cet anticorps marche aussi pour le virus Zika. Donc on a un espoir de vaccin, j'espère, à moyen terme.
Est-ce qu'on pouvait dire
dire un mot de plus, il a parfaitement raison, hein, mon collègue. Le vaccin est un réel espoir. Et là, je voudrais souligner au passage cet immense paradoxe. Vous savez que la France est un pays où il y a une défiance envers les vaccins. Et constamment, on entend dire, ouais, les vaccins, ça peut être dangereux.
Oui, on l'observe beaucoup, ouais.
Et on est un pays qui est très faiblement vacciné et avec des risques épidémiologiques en pleine maladie, notamment la recrudescence de la rougeole, etc. Or, c'est l'espoir sur ce genre de maladie. Et donc, il faut souligner que le vaccin, c'est quand même un progrès médical majeur et que ça va être vrai, je l'espère, le plus rapidement possible pour Zika, mais c'est déjà vrai pour plein d'autres maladies dont on peut se prémunir grâce au vaccin.
Eh bien, on va terminer sur cette note positive. Merci beaucoup, professeur Bernard Hédon, gynécologue obstétricien au CHU de Montpellier, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Merci d'avoir été en direct avec nous, avec donc une vigilance accrue pour les femmes enceintes en ce moment en raison du virus Zika. Restez avec nous sur Europe 1 pour la suite du Grand Direct de la Santé.
Je pars en voyage, mon âme en vent, le cœur et le fond. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur et le fond. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Le cœur léger.
pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant.
Le cœur éléphant, frérot de la Vega sur Europe 1 dans le grand direct de la santé. On se retrouve dans un instant avec un sujet sur le sommeil ce matin. On va s'intéresser plus particulièrement à la sophrologie. Est-ce efficace pour trouver le sommeil? Vous pouvez nous appeler au 3921 pour dialoguer avec nos spécialistes. À tout de suite sur Europe 1.
Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi.
Europe 1. Le grand direct de la santé jusqu'à midi avec autour de vous aujourd'hui Thomas Joubert, Anne Cazobon, Isabelle Quenin, Jean-Michel Cohen et Mathieu Calafiore.
Vous avez peut-être des difficultés d'endormissement, des nuits agitées, des réveils fréquents ou pire, vous passez peut-être carrément des nuits blanches. Si les médecins peuvent vous prescrire des médicaments qui vous aideront peut-être à trouver le sommeil, nous allons parler ce matin d'une méthode qui peut-être vous aider. Il s'agit de la sophrologie. On va voir ça en détail avec le docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste qui nous rejoint dans le grand direct de la santé. Avant de parler des insomnies, un petit mot sur le fonctionnement du sommeil, Mathieu, c'est important.
Oui, c'est important parce qu'il a une fonction vraiment indispensable pour la récupération musculaire, mais aussi pour la compréhension et la mémorisation. On travaille pendant la nuit, on récupère grâce à ça.
Il y a une petite mise à jour du cerveau, voilà, du corps humain qui se fait. Quoi.
Le terme de mise à jour, c'est vraiment ça, c'est vraiment exactement ce qui se passe. Alors, pour qu'on puisse bien dormir, il faut que le cerveau ne soit pas stimulé, donc c'est pour ça que si vous êtes en révision, si vous êtes avec un dossier urgent à remplir, vous allez rester éveillé parce que le cerveau est stimulé. Pareil, si vous avez beaucoup de lumière autour de vous, vous allez avoir du mal à dormir.
Des soucis aussi, alors, du coup, quand on
exactement, le stress est un gros générateur d'insomnie. C'est pour ça qu'il faut pouvoir essayer de lutter là-dessus et de travailler justement sur le stress. La sophrologie peut permettre de travailler un peu là-dessus parce que le sommeil, c'est vraiment une histoire de cycle. C'est des cycles qui durent entre 1h30 et 2h, grosso modo. Si vous enclenchez votre sommeil, vous êtes parti pour votre nuit. Mais si vous ratez le train du sommeil, vous devez attendre le cycle suivant, attendre 1h30, 2h après.
Effectivement. Alors, quels conseils est-ce qu'on peut donner pour mieux dormir?
Des conseils tout simples. Alors, le premier, c'est surtout pas regarder la télévision dans le lit. Le scintillement de l'écran, ça stimule le cerveau. Le cerveau pense qu'il y a encore de la lumière.
Tous les écrans d'ailleurs. Les téléphones portables, les tablettes.
Exactement. Les tablettes et les smartphones, en plus, envoient de la lumière bleutée qui stimule encore plus le cerveau et donc empêche de dormir. Pareil, si vous sentez que vous vous endormez, allez vous coucher tout de suite. Parce que parfois, rien que le fait d'aller se mettre en pyjama, de se brosser les dents, ça suffit à faire rater le train. Préparez-vous à l'avance, mettez-vous en pyjama si vous pensez que vous risquez de vous endormir et puis vous passerez une meilleure nuit comme ça. Il faut aussi respecter son horloge biologique. Faut pas aller se coucher un soir à 22h, le lendemain à 4h du matin, puis le surlendemain à 20h parce que le corps, il a du mal à trouver un petit peu son fonctionnement normal. Il a besoin de temps pour justement enclencher le sommeil. Pas de sport le soir non plus, pas trop tard en tout cas, parce que ça empêche de dormir. Paradoxalement, on a l'impression de faire du sport et puis de se dire qu'on va être détendu,
qu'on va être
fatigué, que ça va être mieux. Non, si c'est trop tard, ça libère trop d'endorphines. On est bien, on est détendu, mais on s'endort pas.
Bon alors, la sophrologie
là-dedans, justement, c'est donc en grec littéral, si on traduit, c'est un petit peu une traduction brute, mais c'est l'étude de la conscience bien portante, la sophrologie. C'est une technique de développement qui permet justement de prendre conscience de tout ce qui peut gêner le sommeil. On prend conscience du stress de la journée, de comment y remédier, on travaille là-dessus. C'est un peu une technique qui est comparée à l'hypnose ou à des méthodes de relaxation. Ça permet de lutter vraiment en pleine conscience contre l'insomnie. On fait un travail sur soi, en gros, pour se détendre et pour réussir à dormir un petit peu mieux. Alors, l'efficacité thérapeutique, c'est pas encore scientifiquement pleinement prouvé. C'est pour ça que la sophrologie est pas remboursée, par exemple, par l'assurance maladie.
Mais c'est reconnu par les médecins?
C'est reconnu par une grande partie des médecins, le travail sur soi, le travail de méthode de relaxation surtout. C'est surtout ça qui est reconnu. Le travail qui est comparé à l'hypnose. L'hypnose est de plus en plus utilisée en termes médicaux, par les anesthésistes notamment, pour certaines interventions chirurgicales, pour l'aide à l'arrêt de l'alcool, pour l'aide à l'arrêt du tabac par exemple. L'hypnose est utilisée, donc ça peut rentrer dans ce cadre-là.
Et donc la sophrologie a les mêmes ressorts que l'hypnose?
C'est des ressorts qui sont similaires, c'est pas exactement les mêmes, mais sont des ressorts justement qui permettent de travailler sur la pleine conscience, vraiment le fait de prendre conscience de ce qui nous gêne pour dormir correctement. Mm-hmm. Donc c'est ce travail-là qui permet après d'améliorer le stress au quotidien. Et comme on a dit au tout début, le stress est un gros générateur d'insomnie.
Ça joue clairement sur le cerveau directement.
Clairement, directement. Alors et ça permet aussi, accessoirement, d'éviter pas mal de médicaments, comme vous disiez, notamment les benzodiazépines, le zolpidem, le zopiclone, qui est pas une benzodiazépine mais apparentée, le bromazépam, le Lexomil, par exemple. Mm-hmm. Tous ces médicaments-là qui sont des catastrophes pour le sommeil, parce que ça fait dormir, effectivement, mais ça donne un mauvais sommeil. C'est pas un sommeil de qualité, et ça a beaucoup d'effets indésirables, des risques de chute chez les personnes âgées, des risques de démence, de perte de mémoire.
Et la dépendance aussi.
Et de dépendance. La dépendance intervient très très vite, en moins d'un mois, on devient dépendant à ces médicaments-là. Donc la sophrologie peut être une bonne réponse qui justement n'utilise pas des médicaments.
39-21, Daniel nous appelle de Linière. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
C'est dans le département 37. Vous nous avez appelé parce que vous êtes une ancienne professeure de sport.
Professeure de PS, oui.
Ouais. Et à l'époque, à la fin de vos cours, vous aviez l'habitude de faire de la relaxation et de la sophrologie avec vos élèves.
Pas tous les cours, mais quand je faisais de la lutte, du combat avec les sixièmes, exemple, ils étaient excités. Donc, 5 minutes de relaxation avant, et ensuite, sophrologie, parce que j'avais fait ça en stage pour la remise à niveau, en tant que prof. Eh ben, j'endormais la moitié de la classe et je me faisais enguirlander par la prof d'anglais qui les avait derrière et qui me disait « Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Ils sont éteints complètement. »
Donc ça marchait ?
Ah ben alors là, ça marchait. Je racontais une histoire et alors à la fin, je disais « Bon, alors maintenant, les garçons vont s'asseoir gentiment, sans... Les filles, après, ça bougeait pas, ils dormaient.
Effectivement, c'est assez impressionnant. Hein. Merci beaucoup, Daniel.
Super. Hein.
Merci de votre témoignage et de votre appel au 39-21. Mathieu Calafiore, faut faire appel à des professionnels quand même.
Oui. Alors, tout le monde ne peut pas s'improviser sophrologue.
Mm-hmm. Hein. Effectivement, même si Daniel nous a dit qu'elle avait eu des petits cours.
Voilà, il y a des petites formations. Alors, on peut faire des formations pour avoir des exercices tout simples. Mm-hmm. Parfois, rien que se concentrer sur sa respiration. Un exercice tout simple comme ça, c'est vous inspirez, vous bloquez la respiration 3 secondes et vous expirez. Rien que le fait de se concentrer là-dessus, ça permet de se détendre et ça permet de
se concentrer sur la respiration. Voilà. On a d'ailleurs tout de suite en ligne avec une sophrologue professionnelle, Catherine Aliota. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Sophrologie et sommeil, un manuel pratique, justement, aux éditions Interédition. Quels exercices vous pouvez nous conseiller, justement ?
Alors, je vais reprendre effectivement ce qui a été dit. Se concentrer sur la respiration, c'est extrêmement important pour arriver à se détendre. Et l'idéal aussi, c'est de, arriver à détourner l'attention. Puisque quand on n'arrive pas à dormir, le problème, c'est qu'on se stresse encore plus parce que comme on cherche le sommeil, on s'angoisse de ne pas y arriver. Donc, en associant à chaque fois le fait de compter, par exemple, et de respirer, on va permettre justement de se détendre. Donc, il y a des exercices tout simples où, assis, par exemple, on va inspirer en comptant mentalement jusqu'à 3 dans sa tête, bloquer un instant sa respiration, et puis souffler tout doucement, comme si on soufflait dans une paille, par la bouche. Voilà, on va expirer en imaginant compter jusqu'à 6. Et en fait, en allongeant le temps d'expiration, on va ralentir le rythme cardiaque et favoriser l'endormissement.
Ce sont donc des exercices qu'on peut faire tout seul, mais qu'on doit apprendre.
Oui, ce sont des exercices qui se refont bien sûr tout seul à la maison et qui sont enseignés par le sophrologue au moment des séances. Alors là, on a parlé pas mal de respiration, on a parlé aussi des exercices de relaxation mentale, mais je tenais à préciser aussi que la sophrologie sont des exercices qui permettent aussi de se détendre physiquement, parce que c'est aussi important de pouvoir relâcher les tensions physiques du corps pour pouvoir s'endormir.
Mais attendez, ça se rapproche un petit peu des techniques de yoga, par exemple ?
Oui, en fait, la sophrologie, c'est vraiment une technique qui est à la croisée du yoga et de l'hypnose. Donc on va à la fois travailler le relâchement musculaire par des mouvements doux, simples, un peu comme dans le yoga, et on va travailler aussi le relâchement mental par la relaxation.
D'accord, mais pour l'hypnose, il faut quelqu'un qui vous hypnotise, il faut un hypnotiseur. Là, comment ça se passe avec la sophrologie ? Vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un en permanence ?
Alors,
dans le lit,
non,
quoi.
On n'est pas
bah
vécu
oui,
en permanence.
Oui, Jean-Michel Cohen a raison, surtout dans le lit, oui.
Mais l'idée, ça va être que lorsque la personne va être en séance avec son sophrologue, elle va pouvoir enregistrer la séance que l'on va faire avec lui. Mm-hmm. Maintenant, beaucoup de smartphones permettent d'enregistrer.
Ah, oui,
et là, du coup, une fois que la séance est enregistrée, la personne peut se la repasser le soir avant de s'endormir.
Entendu. Merci beaucoup Catherine Aliota, sophrologue, auteure de Sophrologie et Sommeil Manuel Pratique. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Voilà ce qu'on pouvait dire donc autour des difficultés à s'endormir et l'aide que peut apporter la sophrologie.
Shoeless feet in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shine. Swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
Classiques sont sur Europe 1. David McWilliams à l'instant au cœur de ce grand direct de la santé. On se retrouve dans un instant avec le docteur nutritionniste Jean-Michel Cohen qui va vous aider cet été à préparer des tapas basses calories. À tout de suite.
Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand direct 9h midi.
Avant de retrouver Anne Cazobon pour le journal de la santé, je vous rappelle qu'une prise d'otage a eu lieu ce matin dans l'agglomération de Rouen, dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray très précisément. On apprend à l'instant que le président François Hollande a quitté l'Élysée et qu'il va se rendre sur les lieux. Il y aurait au moins un mort dans cette prise d'otage. On y revient évidemment à midi sur Europe 1 pour plus d'informations. Avant ça donc, le journal de la santé, c'est avec Anne Cazobon.
Au Brésil, une pilule controversée fait débat. La ménopause fait vieillir plus vite. Nos intestins contiennent des bactéries vieille de 15 millions d'années, sans oublier le chiffre du jour.
Et on commence par une année compliquée pour les apiculteurs et forcément une récolte qui n'est pas bonne.
Oui, le printemps pluvieux a nuit à la qualité des fleurs et les abeilles sont moins sorties. Elles se nourrissent donc du miel restant dans les ruches. Résultat, la production en 2016 s'annonce catastrophique, notamment en Lorraine. Le reportage d'Arthur Elmbaché à Toul, en Meurthe-et-Moselle.
Écoutez ceci. Vous n'avez pas entendu grand-chose, c'est normal, et pourtant le micro était posé à l'entrée de la ruche.
Dans une période normale, ça fait un raffut du diable, c'est très impressionnant.
À cause du temps, de la météo, les abeilles sont au chômage technique, expliquent Hubert Duru et Jean Barthélémy, qui gèrent l'association Happy Est, et ses 3500 ruches près de Nancy.
On succède 2-3 jours de beau, à peine. Et puis après, ça rechute en température, il flotte, donc il n'y a pas de nectar qui est produit par les fleurs sont lavées. Hein. Bon, l'acacia, par exemple, on est passé complètement à côté. Hein. Bon, il y a un peu de pollen qui vient, hein. On les voit, elles reviennent, quelques-unes qui reviennent avec les pattes chargées hein, de pollen, donc elles sont toutes jaunes ou toutes blanches, hein. Mais c'est peu.
Et là, par rapport, tout à l'heure, vous étiez là, ça bougeait encore un peu plus. Là, ça y est, c'est fini. Regardez. Il n'y a rien du tout.
Ah, nous, on a des apiculteurs qui ont 80 balais, ils font ça depuis 60 ans, ils n'ont jamais vu une année comme ça, quoi.
À cause de ces printemps et étés pourris, sur 4 pots de miel, 3 ne seront sans doute tout simplement pas produits par les abeilles. Les apiculteurs du Grand Est veulent faire une demande de calamité agricole pour compenser les pertes.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans la région Grand Est. Au Brésil, des premiers tests sur des humains d'une pilule controversée contre le cancer.
Oui, celle que l'on appelle pilule du cancer est déjà utilisée par des patients bien que non autorisée et décriée. L'objectif de ces tests réalisés à l'Institut du cancer de São Paulo est de prouver l'efficacité d'une substance déjà utilisée par des patients. En théorie, cette pilule serait en mesure d'aider le système immunitaire à identifier les cellules tumorales et pourrait même les éliminer. Les premiers tests, cela dit, réalisés sur les rongeurs n'ont toutefois pas été très prometteurs.
La ménopause fait vieillir plus vite.
Oui, en plus des troubles du sommeil qui peuvent en résulter, la ménopause prématurée accélère le vieillissement des femmes. Plus une femme est jeune quand la ménopause commence, plus vite son sang vieillit. L'accélération du vieillissement cellulaire serait de 6% en moyenne. Et si cela ne semble pas énorme sur le papier, cela fait tout de même une différence en s'accumulant au cours de la vie des femmes.
Des bactéries vieilles de 15 millions d'années dans nos intestins.
Oui, la preuve vient d'être apportée dans la célèbre revue américaine Science. Certaines de nos bactéries intestinales nous ont été transmises par les ancêtres communs que nous avons avec les singes. Ces bactéries datent de 15 millions d'années et sont inséparables de l'histoire de l'évolution. Elles ont su s'adapter et évoluer avec l'homme et son environnement. Cette nouvelle devrait faire avancer la recherche dans l'explication de certaines maladies comme l'obésité.
On termine avec le chiffre du jour.
6, c'est le nombre de points qu'a perdu un jeune automobiliste de 22 ans en chassant des Pokémon au volant.
Non.
Via la fameuse application Pokémon Go sur son téléphone portable alors qu'il conduisait, son véhicule a heurté un muret à Besançon. Et puis dimanche, une autre conductrice avait elle-même perdu le contrôle de son véhicule dans le sud de l'Aisne, croyant pouvoir chasser un Pokémon au volant. La gendarmerie met en garde les usagers de la route en rappelant de ne pas jouer au Pokémon Go au volant et aux piétons surtout de redoubler d'attention.
Ne chassez pas les Pokémon au volant. Aux États-Unis, on a déjà vu apparaître sur les panneaux de signalisation des messages de prévention. Don't Pokémon when you drive. Merci beaucoup, Anne Cazobon.
Europe 1. Le grand direct de la santé sur Europe 1 avec autour de Thomas Joubert aujourd'hui, Mathieu Calafiore, médecin généraliste, Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste, Anne Cazobon, journaliste à Europe 1 et Isabelle Quenin, spécialiste santé conso.
Et en cet été, si vous avez prévu une soirée ou un barbecue entre amis et que vous manquez d'idées pour faire une entrée, bien pourquoi ne pas essayer ce qu'on appelle les tapas en espagnol, que l'on pourrait traduire par des petits amuse-bouches. Hein. En fait, Jean-Michel Cohen, notre médecin nutritionniste, est avec nous ce matin et on va vous donner avec Jean-Michel des recettes faciles à réaliser pour faire plaisir à vos papilles et évidemment de manière assez légère en calories. Jean-Michel, c'est possible?
Oui, alors vous me demandez toujours de faire des choses légères en calories,
bah oui.
Mais à cette période de l'année, honnêtement, on pense plutôt à la convivialité et au plaisir. Et là, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a toujours des termes exotiques pour désigner de la nourriture. Alors les tapas, ça fait un peu rêver. Quand vous allez dans les bistrots espagnols et que vous commandez des tapas, régulièrement les gens sont assez déçus parce qu'ils ne voyaient pas les tapas comme ça.
Ouais.
Ça arrive, c'est des petits morceaux de pain avec de la tomate dessus, c'est des anchois, c'est des olives. Et au fond, les gens se disent qu'ils avaient affaire à quelque chose de relativement exceptionnel. Mais en réalité, les tapas, c'est l'apéritif. Alors, plutôt à la façon espagnole avec les produits espagnols. Mmh. Et à la française, bah, ça va être tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire des petits canapés et des petites verrines, en passant par les cacahuètes et les amandes, pour lesquelles vous
Sauf
savez que j'ai
Espagne,
une grande affection.
Oui, ça, on le sait. En Espagne, ça constitue carrément le repas. C'est-à-dire qu'on mélange plein de choses quand
pas
même, non?
Tout à fait, pas tout à fait. En réalité, en Espagne, ça permet d'attendre le repas parce qu'il y a un décalage dans la consommation alimentaire. Mmh. C'est-à-dire que les Espagnols mangent beaucoup plus tard. Et les tapas, c'est une espèce d'apéritif prolongé. C'est une espèce de cocktail semi-dinatoire. Parce qu'il y en a suffisamment pour que ça soit appétissant et agréable à consommer, mais il n'y en a pas assez pour que ça soit le repas. Et c'est pour ça qu'on a pris cette habitude et que ça se décline dans tous les sens. Alors après, les tapas, faites-en ce que vous voulez, ça veut dire c'est de l'apéritif. Si vous décidez de les faire light, il faudra utiliser des produits light ou les agrémenter en sachant qu'il faudra essayer de limiter les valeurs caloriques des produits consommés.
Alors de quels ingrédients on a besoin?
Alors moi, je voudrais qu'on parle pour une fois des jambons secs et des jambons crus.
Ah.
Ce sont des produits qui ont une très mauvaise réputation. Vous savez que le jambon aujourd'hui est considérablement dégraissé. Ce sont des produits qui ont entre 1 et 3% de matière grasse, faiblement caloriques, riches en protéines. Donc tout le monde se jette sur les petits morceaux de jambon blanc. Et en réalité, le jambon cru n'est rien d'autre qu'un jambon blanc qui a été desséché par imprégnation de sel. Et sa valeur calorique n'est pas si énorme que ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'interdisent, même dans les régimes, de manger du jambon de Parme ou du jambon de Bayonne, simplement parce qu'ils ont le sentiment que c'est beaucoup plus gras. Alors ça l'est en termes de densité, parce que comme c'est desséché, ça vaut plus en calories. Mm-hmm. Mais ça l'est pas tant que ça. Et c'est vraiment le prélude idéal au tapas. Et moi, je pense que rien ne vous interdit comme tapas de faire des petites billes de melon avec des petits morceaux de jambon de Parme, d'alterner l'un avec l'autre. Et c'est pas mal du tout à consommer. Oui, Isabelle Quenin.
Bah parce que le problème souvent de ces produits-là, c'est le sel. Hein. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont donner soif.
Oui, oui.
Parme ou Bayonne, c'est vrai que c'est beaucoup plus salé.
Voilà,
que
ce sont
blanc.
Des produits salés, mais je rappelle en général que ça se mange souvent sous forme de chiffonnade. C'est-à-dire que les quantités qui sont consommées sont relativement faibles. Et en fait, quand vous faites ce mélange melon, petit morceau de jambon sec, en réalité, vous anesthésiez un peu le sel par la présence du melon, donc vous n'en consommez pas tant que ça. Ouais,
donc ça, c'est des petites brochettes. Hein.
Voilà, ça, c'est des petites brochettes. Après, parmi les produits qu'on va trouver à cette période de l'année, on va avoir les poivrons et les tomates. Et les poivrons et les tomates, ils sont intéressants. Vous savez que le poivron est un des produits les plus riches en vitamine C. Mm-hmm. Et en fait, ces produits servent de réceptacle. Donc, vous pouvez très bien imaginer prendre des poivrons ou des mini-poivrons et les farcir, ou alors mettre du basilic dessus et mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et grignoter ça. Là encore, j'ai anesthésié le côté gras de l'huile comme je l'ai fait avec le côté salé du jambon par la présence du poivron. C'est-à-dire, j'ai mis certes un petit peu d'huile, mais en utilisant un produit qui servait de réceptacle comme le poivron, qui était faiblement calorique et riche en vitamine C, j'ai réussi à faire une composition relativement maigre, pas maigre totalement, mais relativement maigre dans l'esprit de la convivialité.
Oui, mais le poivron, c'est un bon ingrédient quand même. Hein.
Voilà, ça reste un bon ingrédient. Et puis, pour les tomates cerises, vous pouvez les farcir avec du chèvre. Je rappelle au passage que parmi les fromages peu caloriques, on a des fromages comme le chèvre. Le chèvre ne dépasse jamais 300 kilocalories pour 100 grammes. Quand vous mettez, vous écrasez du chèvre, quitte à l'écraser même avec un petit peu de fromage blanc pour le rendre un peu plus liquide et que vous farcissez une petite tomate, après à vous de rajouter de l'ail, du thym, toutes les épices qu'on a l'habitude de consommer. Et puis, je ne peux pas passer à côté des champignons. Les têtes de champignons sont des produits idéaux à farcir également. Et on peut les mettre, les émincer, les faire revenir à la poêle. Et ça peut se grignoter. Voilà, tout ça, c'est des tapas. Libre à vous, après ou non, d'utiliser du pain. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ouais. On n'est pas obligé de manger toujours light. Un garçon comme Thomas, qui mériterait de prendre une dizaine de kilos, par exemple, ces temps-ci, pour avoir une allure un peu athlétique.
Ouais, je cherche plutôt à faire l'inverse, moi.
Voilà, je sais, en permanence, mais c'est toujours comme ça. Eh bien, je pourrais très bien imaginer lui donner des croûtons de pain. Simplement couper finement et mettre dessus des morceaux de tomates séchées et tous les ingrédients dont je viens de vous parler.
Effectivement.
Arrêtez de baver là, vous salivez tellement que...
Il est midi moins 20, Jean-Michel, en même temps. Hein, on est levé depuis tôt ce matin, on commence à avoir faim. Isabelle Quenin.
Dans les tapas, il y a du pain, puisque c'est un petit peu le concept. On remplace l'assiette par le morceau de pain qui fait tenir dessus tout ce dont vous avez parlé et qui permet de le manger sans s'en mettre partout.
C'est le bonus, ça, c'est le bonus, hein, c'est pas obligé, Isabelle.
Si, c'est pas si, quand même.
Le pain, je vous rappelle que l'origine du sandwich, c'était simplement pour permettre aux gens de manger quelque chose sans se salir les mains. Et bien, dans les tapas, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est-à-dire, quand vous mangez des anchois, des tomates séchées, n'importe quelle substance et que vous utilisez le pain, le pain est un support qui vous permet de ne pas vous salir les doigts. C'est l'histoire du sandwich pour lequel Lord Sandwich avait été servi par son serviteur, justement, pour avec deux morceaux de pain au milieu de la tranche de viande, parce qu'il jouait aux cartes. Voilà, pour ne pas se salir les mains. Il y a un produit, alors moi je viens de ces temps-ci, j'ai passé beaucoup de temps en Touraine, très belle région, Isère-sur-Creuse, etc. Et à côté, il y avait La Rochelle. Et à côté de La Rochelle, il y a quand même énormément de moules. Et les moules farcies, voilà un produit qui est vraiment bien pour l'été. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont carencés en iode. On considère que presque 90% de la France est carencée en iode. C'est ce qui explique l'utilisation du sel iodé. Bah, les moules farcies, ça reste un très bon produit. Rien ne vous oblige de mettre du beurre et du persil à l'intérieur. Vous pouvez très bien préparer une espèce de petite farce d'herbe en hachant menu des échalotes, du persil, etc., en mettant du vinaigre, les mettre dans des moules fraîches et farcir les moules fraîches, et vous avez remplacé le pain par une coquille, ma chère Isabelle.
Oui. Et on peut aussi les faire en petite brochette d'ailleurs, les moules sur un petit pitch.
Absolument, et même les faire griller.
Ça peut pas être mauvais.
Et alors, on peut pas passer à côté de la tortilla espagnole, quand même.
La tortilla, oui.
La tortilla espagnole, c'est quand même la grande spécialité des tapas. Qui ne connaît pas la tortilla est passé complètement à côté des tapas. Je vous rappelle que la tortilla, bah, c'est des œufs avec du lait, de la pomme de terre, un peu de poivron et de l'oignon, qu'on mélange tout ça, qu'on le fait cuire comme une omelette avec un peu de pommes de terre et que ça se sert froid. Et que la tortilla, alors quand vous faites la composition, j'ai déjà expliqué à 1000 reprises que la pomme de terre n'était pas un produit si calorique que ça. C'est l'absorption de la graisse par la pomme de terre qui nous pose un problème.
C'est vrai. Bah,
cette tortilla, ça se découpe en petits morceaux, comme les petits apéricubes qu'on consommait autrefois. Et vous pouvez grignoter ça en attendant. Et ça vous permettra d'avoir encore quelque chose de relativement light.
On se fait des petites bouchées de tortilla, donc.
Hein. Exactement. Et puis n'oubliez pas, hein, la bressaola et la viande des grisons, qui se mélangent très bien, par exemple, avec les artichauts. Et donc, ce mélange protéines qui coupe un petit peu l'appétit avec des légumes, c'est quand même le produit idéal des tapas. Donc, en conclusion, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tapas ce que vous voulez, à condition de manger des petites bouchées.
Et ça doit rester équilibré quand même, ou on essaye d'avoir un
ça reste
un
équilibré,
petit peu
mais vous savez, j'ai une version. Moi, je dirais que j'ai une version light de la diététique à cette période de l'année. Je pense que les périodes sont très éprouvantes ces derniers temps. On a besoin de solidarité, de renforcer notre cohésion. Et donc, je trouve que les apéritifs, le plaisir de manger, c'est un compensateur de toutes les horreurs qu'on vit en ce moment.
Ça réforme, ça ressoude la cohésion sociale aussi, Isabelle Quenin.
Moi, je voulais savoir, connaître le résultat du match calorique entre jambon, Bayonne et par exemple viande grison.
Et je suis obligé de vous le donner ?
Ouais.
Bon, d'accord. Alors, la viande des grisons, en fait, qu'est-ce que c'est la viande des grisons ? C'est de la viande de bœuf séchée, alors que le jambon de Parme ou le jambon cru, c'est de la viande de porc quasiment séchée. Donc, le porc étant un peu plus gras que le bœuf, c'est un peu plus calorique. Et souvent, dans la viande des grisons, il n'y a pas de graisse autour, et alors que dans le jambon cru, il y en a un petit peu.
Et c'est bourré de
donc,
protéines.
C'est environ 20 à 25% plus calorique.
Un dernier mot, Mathieu Calafior ?
Je vais rejoindre Jean-Michel sur le fait de ne pas avoir peur de faire quelques excès l'été, surtout que c'est une période qu'on rend très facile. Pour les promenades et notamment les promenades liées à Pokémon Go, parce que je sais que vous êtes très friand
de ça. Sport, voilà, ce que vous êtes en train de dire.
On va peut commencer par ça.
Je voudrais pas vous priver des marronniers de la rentrée des vacances où on va toujours parler des régimes. Donc préparons-nous à grossir pour maigrir à la rentrée.
C'est
quand
bien vu. C'est bien vu. Bon, Jean-Michel, tapas 100 balles.
Tapas absolument.
À la suite du grand direct de la santé, ce sera dans un instant sur Europe 1. On va terminer notre émission ce matin avec un sujet sur les lobes d'oreilles. C'est très tendance en ce moment. On va vous dire comment améliorer et embellir vos lobes d'oreilles. Ce sera juste après Marc Lavoine sur Europe 1 en duo avec Claire Kem. Je ne veux qu'elle.
J'ai beau savoir et plus y croire, je ne veux qu'elle. Je ne veux. J'ai beau chercher d'autres à rêver, je ne veux qu'il, je ne veux qu'il. Et même si nos raisons nous séparent, même si on vit cet amour comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire, autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de beau.
peu de douceur dans ce monde de brut. Marc Lavoine et Claire Keim sur Europe 1. Je ne veux qu'elle. On se retrouve dans un instant pour la suite du grand direct de la santé. On s'intéresse donc au lobe d'oreille. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Le grand direct de la santé sur Europe 1 avec autour de vous Thomas Joubert, Mathieu Calafiore, médecin généraliste, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, Anne Cazobon, journaliste Europe 1, et Isabelle Quenin, spécialiste santé conso.
Et je vous avoue que le lobe d'oreille n'est pas forcément la partie du visage dont on se préoccupe le plus. À part y mettre des boucles d'oreilles et autres piercings qu'on connaît bien, on ne voit pas que notre lobe souffre, car il vieillit lui aussi et il peut se déformer. Heureusement, de nouvelles techniques de chirurgie permettent carrément de réparer les dégâts si votre lobe est abîmé. On va en parler donc tout de suite avec Isabelle Quenin. C'est une tendance d'embellir ses lobes d'oreilles.
J'ai bien senti une certaine perplexité quand je vous ai proposé le sujet,
je
Thomas.
Je vous l'avoue.
M'avait dit, t'es sûr? Mmh. Eh ben oui, je suis sûre, parce que c'est vrai qu'on s'en préoccupe pas beaucoup, mais je le disais tout à l'heure, si vous regardez le lobe de votre interlocuteur, la personne qui est en face de vous, et que vous essayez de dire...
C'est problématique, on a tous des casques sur les oreilles
exactement.
Ici, alors c'est compliqué.
Quel âge il ou elle a, sachez que votre lobe d'oreille est un excellent révélateur de votre âge.
Ah bon?
Vous pouvez pas tricher, c'est un petit peu comme les décolletés ou comme les mains.
Les mains, ouais, voilà, ça trahit son âge.
Exactement, et c'est pour ça que lorsque les chirurgiens esthétiques font des liftings, à chaque fois ils en profitent pour repulper le lobe d'oreille qui en vieillissant s'amenuise, devient tout maigre et tout ça, je vous expliquer pourquoi après. En fait ils le repulpent et ça donne tout de suite un côté beaucoup plus jeune et beaucoup plus frais. Alors ce pauvre lobe d'oreille, en fait vous avez dit qu'il souffrait, je suis pas sûre qu'il souffre énormément, parce qu'en fait il sert pas à grand chose, sauf effectivement à lui coller des piercings ou des boucles d'oreilles. C'est la partie inférieure du pavillon de l'oreille, et ce lobe, contrairement aux autres parties de l'oreille, ne contient pas de cartilage. Ce qui veut dire qu'il a pas de soutien. Et donc, ce qui veut dire qu'il va être soumis à la ptose, c'est-à-dire qu'au fil des années, c'est un peu comme les seins et les doubles mentons, et ben, il va avoir tendance à tomber.
Ouais.
Exactement. Donc, il va s'affaisser. Et donc, c'est ça, c'est en ça où il trahit notre âge, puisqu'on va se dire, bon, là, et personne ne pense à regarder. Maintenant, je suis sûre que tout le monde
a regardé
le lobe.
On regarde le lobe d'oreille de tout le monde, oui.
Alors, c'est du tissu adipeux, donc c'est à l'intérieur, il n'y a rien qui le soutient, donc en fait il va s'amenuiser. Et ce qu'on ne sait pas forcément, alors bon, je vous le disais, ce lobe n'a aucune utilité, mais ce qu'il faut savoir, vous savez, généralement, quand on va voir des bébés à la naissance, on dit, oh regarde, il a des grandes oreilles, mais t'inquiète pas, ça va se normaliser après.
Ça va s'équilibrer.
Ce qu'il faut savoir, c'est que notre oreille grandit tout au long de notre vie.
Ah bon ?
C'est-à-dire que nous, on grandit jusqu'à l'âge adulte, mais l'oreille, contrairement à nous, elle continue sa croissance.
Jusqu'à la mort, docteur Mathieu Calafiore ?
Et le nez aussi.
Exactement.
Tout à fait.
Alors, ce qui est intéressant.
On peut en couper un bout, alors, éventuellement, si ça vieillit trop mal.
Ça va faire partie de la chirurgie dont on va parler tout à l'heure. Effectivement, on peut redonner une forme à un lobe d'oreille en le raccourcissant, en lui redonnant une forme et surtout en lui redonnant du volume, en lui redonnant
J'ai jamais entendu parler de ça, moi.
Alors, donc, effectivement, et sachez par exemple que nos oreilles grandissent de 0,22 mm par an. Non, ça fait hurler de rire, Jean-Michel.
Je suis mort de rire, pense à mon pauvre beau-frère, là, pour l'histoire du nez, là. Il se plaint toujours d'avoir un grand et ça va continuer, c'est terrible, c'est clair.
Alors, c'est le syndrome Pinocchio.
Alors, pourquoi est-ce que nos oreilles grandissent? Il y a un rôle, là il y a une fonction. Le lobe, il sert à rien, mais l'oreille grandit pourquoi? Extérieurement, pourquoi? Parce qu'en vieillissant, nos capacités auditives diminuent.
Non, plus on entend mal, plus l'oreille grandit.
C'est exactement ça, parce que l'oreille se dit, il faut que je compense cette perte de performance sur l'audition, et donc elle transforme notre oreille en un entonnoir. Et donc on a un entonnoir de plus en plus grand qui nous permettrait de compenser la perte de l'audition à l'intérieur de notre oreille.
Bon, donc, vous avez fumé quoi, Isabelle là?
Mais non, c'est
parce
hyper sérieux.
Parce que tous ces conseils,
raconte.
Moi je suis stupéfait.
Mais c'est pas des conseils, c'est un constat.
Avec cette tapasse,
par exemple, de vous dire que la taille moyenne des oreilles, c'est 6,75 cm.
C'est
une
important,
étude. Non,
c'est important,
mais ce qui est génial, c'est d'imaginer qu'il y a quand même des gens qui ont mesuré des oreilles des autres de 30 ans à 93 ans.
Et donc arrivé
à l'âge. Oui, quand t'es payé. Et donc de 30 ans à 93 ans, ça va de 5,2 cm jusqu'à 8,4 cm pour ceux qui ont les plus gros entonnoirs. Donc on a bien compris qu'il faut que donc que l'oreille, elle a une utilité.
Allez, ça vous donne une question.
Oui, vous disiez que le lobe de l'oreille n'avait aucune utilité. Il me semble, Isabelle, que le lobe de l'oreille a une utilité érotique. C'est une zone érogène.
On y a tous pensé. Hein.
L'émission devient sympa.
Je savais que vous étiez la plus coquine d'entre nous, Anissa.
Effectivement, mais il n'y a pas que le lobe. D'ailleurs, il y a toute l'oreille qui est très...
Moi, j'ai horreur de ça. Honnêtement, j'ai horreur.
Non, il paraît que c'est une technique de drague. C'est-à-dire qu'arriver à attraper le lobe de l'oreille de quelqu'un et le frotter, ça augmenterait l'excitation et l'appétit pour cette personne.
Alors,
il faut y arriver jusqu'au lobe.
Quelqu'un qui arrive à un apéritif et qui commence à vous chatouiller l'oreille, c'est un peu agressif qu'on se laisse faire.
Et les lécher alors?
Non, mais, et dans un apéritif.
Bah, on participe à des apéritifs plus ou moins non, sympathiques.
Mais ce qui est drôle avec vous,
ça.
Thomas, c'est que vous aimez pas les oreilles et vous aimez pas les pieds.
Non.
Vous voulez en parler?
Ce sera l'objet d'une autre émission.
Alors, ce qu'il faut
donc,
savoir,
qu'est-ce qu'on fait de ces lobes alors?
Alors, justement, le lobe qui va vieillir, donc du coup, il va s'allonger. Donc oui. Là, on peut avoir recours à la chirurgie esthétique, mais surtout, le plus grand ennemi des lobes d'oreilles des femmes, ce sont les boucles d'oreilles, parce que on va tendance, suivant la mode, et vous savez qu'en ce moment, c'est plus les petites créoles, mais on va rajouter des trucs. On dirait parfois qu'il y en a qui ont des lustres suspendus aux lobes d'oreilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est dès que la boucle d'oreille dépasse 5 grammes, immédiatement, vous donnez un traumatisme à votre lobe. Donc, c'est-à-dire que si vous avez les oreilles percées, exactement le trou. En fait, lorsqu'on vous a percé l'oreille, c'était assez petit. Et là, vous allez voir qu'en rajoutant du poids, et avec les années, donc le trou, cette incision, elle va s'allonger, elle va s'agrandir, ce qui va dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus porter de boucle d'oreille, parce que du coup, au lieu de l'avoir, la boucle d'oreille, la perle bien positionnée au milieu du lobe, vous l'aurez carrément en bas. Et donc ça, c'est assez moche. Ce qui a fait qu'il y a des sociétés qui sont penchées sur le problème, et vous avez même des patchs que vous mettez, donc en fait ça fait un peu comme un contrepoids que vous mettez derrière l'oreille et qui vous répare en fait l'oreille, et vous pouvez donc remettre votre boucle d'oreille. Non mais c'est un truc de fille, hein. Remettre votre boucle d'oreille en étant complètement centré.
Oui, c'est vrai, vous n'avez pas de boucle d'oreille, docteur.
Non mais j'y penserai peut-être pour
alors,
la rentrée.
La chirurgie, il y en a de deux sortes. Il y a la chirurgie des lobes trop fondus, donc c'est ce qu'on disait, c'est la boucle d'oreille trop lourde qui au fil des années
ça se répare de manière chirurgicale.
Voilà, et on va attendre, donc on recoue, on resuture, on refait un orifice un peu plus petit. On va attendre 6 mois avant de remettre des boucles d'oreilles. Et puis surtout, on a bien en tête que passé 5 grammes, on va recommencer avec le même problème. Et puis vous avez ce qui se fait de plus en plus souvent, la reconstruction esthétique du lobe. C'est-à-dire qu'on va effectivement, comme vous le disiez, le raccourcir. On va enlever 1 centimètre, voire un petit peu plus. On va lui redonner une forme. Et surtout, avec de l'acide hyaluronique, on va lui redonner du volume.
D'accord.
Ce qui va permettre de... Voilà, vous le regonflez, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais.
Et les gros anneaux qu'on voit parfois chez les jeunes personnes.
Alors là, les piercings, il faut faire très attention, parce que les piercings, c'est comme les tatouages, hein. C'est une mode, c'est sympa, on est jeune, on dessine. Le problème, c'est que le tissu autour risque de se scléroser. Donc le jour où vous en aurez ras-le-bol de votre piercing et vous allez l'enlever, vous allez vous retrouver avec des trous qui ne vont plus se reboucher, sauf à passer, pardon, là aussi, par de la chirurgie esthétique.
Ah oui.
Et d'une façon générale, vous savez que l'été, c'est... Alors, première chose, je vais me faire tatouer. Donc choisissez bien le tatoueur, on en parlera sur une autre émission. Et deuxièmement, j'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles sympas, donc je vais me faire percer les oreilles. N'allez pas chez n'importe qui.
Les mots magiques, ça va être t'as de beau lobe, tu sais.
Ah ouais, ça marche, pourquoi pas. On parlait hier des techniques de drague avec des phrases bidons toutes faites. Le tas de bolocs, tu sais, je pense que ça peut donner quelque chose.
Ah oui,
ou pas.
Vous marquez des points.
Ou
oui.
pas.
Ou pas. Mais alors, donc oui, pas se faire percer, pas chez n'importe qui, évidemment, il faut suivre les règles très strictes.
Voilà, pas chez n'importe qui, et surtout si vous voulez porter des super boucles d'oreilles pendant l'été, bien le faire en amont. Donc cet été, c'est un peu râpé. Vous serez prête pour l'année prochaine, parce qu'il va falloir respecter tout un processus de je garde de l'acier chirurgical, je vais chez quelqu'un qui s'y connaît, je me fais percer les oreilles avec des boucles d'oreilles qu'on va installer avec de l'acier chirurgical, petit à petit, j'enlève mes boucles d'oreilles, je les désinfecte et je désinfecte la plaie. Et au bout simplement de 3 semaines, 1 mois, voire plus, si vous voyez qu'il y a toujours un petit suintement, vous pourrez enfin porter des boucles d'oreilles en vous méfiant, bien sûr, du support de la boucle d'oreille, de la tige. Et donc prendre de préférence ou des choses en or ou en acier et pas du tout avec des amalgames, avec du nickel, parce que là, vous allez vous retrouver avec un risque allergène et vous risquez d'avoir un énorme problème. Ça arrive très très souvent, les lobes d'oreilles qui sont infectés. Et là, après, pour les récupérer, c'est du boulot.
À partir de quel âge, Isabelle, on se perce les oreilles? Parce que c'est une grande question chez toutes les jeunes filles, même les jeunes garçons, pourquoi
pas? Alors, il faut attendre un petit peu, parce que vous savez que, alors, il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, où les petites filles sortent de la maternité, les bébés sortent avec les petites perles. Ouais. On perce les oreilles directement à la maternité. Ce qu'il faut savoir en France, si vous voulez faire la même chose, c'est que dans la plupart des crèches, on interdit les oreilles percées. Donc, attendez que l'enfant une adolescente, c'est bien, ce soit elle qui le décide.
Exactement.
C'est pas maman qui va décider.
Merci beaucoup, Isabelle Quenin. Merci, docteur Jean-Michel Cohen. Merci, docteur Mathieu Calafiore. Merci, Anne Cazobon. Demain matin à 9h, un nouveau grand direct avec vous, Anissa. Vous serez là?
Avec grand plaisir, Thomas. À votre
côté. Et
dans
un instant, un point complet sur l'info de la mi-journée avec Thierry Dagir. À tout de suite sur Europe 1 et à demain 9h.
À demain, c'était Thomas Joubert sur Europe 1.